Voilà, 66. Quels sont les quatre paramètres de la performance professionnelle? Ça fait longtemps que je vais vous parler de ça parce que vous allez voir, il y a deux grandes données par rapport à qu'est-ce qui fait qu'on a du succès professionnellement ou qu'on en arrache. Et tout le monde a, à quelque part dans sa carrière, un aspect où c'est facile, un aspect où c'est compliqué, un aspect où il y a du succès, un aspect où il y en arrache. Et puis, c'est des vases communicants parce que quand tu es bon dans un, habituellement, tu n'es pas bon dans l'autre, etc., vous allez voir. Les quatre paramètres, c'est les suivants. C'est le talent, le jugement, l'attitude, puis le travail. Donc, le travail, on entend par là la force de travail, l'intensité au travail, la quantité de travail, bon, ce qu'on appelle être travaillant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais passer à travers les quatre. Je vais vous dire en même temps qu'est-ce que je pense de chacun. Puis à la fin, ça va être intéressant de voir, comme un peu un magicien, je vais vous dire, je vais vous poser une question, et puis je vais avoir déjà la réponse pour vous autres d'avance. Le premier critère, écoutez, il y en a peut-être 5 ou 10 autres, là. Moi, après réflexion, j'en ai trouvé 4, mais peut-être que vous allez me répondre en commentaire que vous en voyez d'autres. Le premier critère, c'est le talent. Alors évidemment, il y a des jobs qui ont besoin d'aucun talent. Si tu travailles dans une usine, comme j'ai travaillé dans le temps à Québec, l'usine de pâte et papier, ça requiert absolument aucun talent. Un travail manuel, habituellement, de manœuvre, je devrais spécifier parce que tu peux être manuel, genre un menuisier, et là, il y a vraiment du talent d'impliquer. Entre autres, si tu montes des meubles, par exemple, s'ils sont toutes faites à 90 degrés, juste des planches collées ensemble, non. Mais à partir du moment où il y a un minimum de création, oui, ça implique absolument du talent. T'sais. Et puis, il y a beaucoup de domaines où on pense que le talent n'est pas impliqué, puis bien au contraire. Par exemple, l'informatique. Alors, si tu es un technicien informatique, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que tu répares des bugs, etc., ton talent, ce n'est pas nécessairement un talent par rapport à ce qui doit être fait, mais ça peut être dans l'efficacité de ton travail. Ça touche d'autres points, par contre. Ça touche, par exemple, le jugement. Mais, règle générale, le talent se retrouve dans plusieurs jobs sans que ça paraisse trop, parce que la notion de talent, anyway, c'est une notion élastique, c'est pas super clair. Et il y a des jobs où ce n'est que ça. Tout ce qui est de nature artistique, art et lettres, comme on disait dans les anciens programmes, je pense que c'est encore une façon de faire l'appellation. Là, à ce moment-là, le talent est très requis. Moi, je ne vous cacherai pas que j'ai toujours valorisé beaucoup le talent parce que les jobs qui sont basés sur autre chose que le talent, c'est-à-dire la force de travail ou le savoir, parce que c'est les trois catégories, tu peux travailler de ton savoir, de ta force de travail ou de ton talent, ou un mélange, bien entendu, c'est que la force de travail, à un moment donné, à peu près tout le monde, si tu mets le temps, tu finis par l'avoir. Le savoir, ça s'acquiert. C'est-à-dire qu'ultimement, si je m'inscris dans un programme, peut-être que je n'ai pas un talent naturel à le faire, mais si je m'y mets, je vais au moins savoir. Si c'est un programme, puis si c'est un métier de savoir, bon, par exemple, un architecte, n'importe qui marche avec sa tête, si tu veux, c'est un métier de savoir. Puis, tu as le programme de talent. Moi, j'ai beaucoup valorisé le talent parce que, pour des raisons obscures, remarquez, mais le talent, c'est que tu ne peux pas dire « je vais à l'école, puis on me donne du talent ». Ça ne marche pas, là. Ça fait que c'est quelque chose qui s'acquiert plus difficilement que les deux autres. Et quand tu as du talent dans quelque chose, ça te permet de réaliser des affaires que d'autres ne peuvent pas. Ça peut être un moteur malsain, mais ça peut être un moteur qui est fort pareil. Moi, j'ai étudié en droit en me disant « je vais vivre de mon talent, mais je vais quand même aller chercher de quoi » qui fait que par orgueil, je pourrais répondre à quelqu'un qui est allé faire une formation de son savoir. J'ai vraiment fait, et je suis devenu, et est encore aujourd'hui membre du barreau, juste par orgueil. C'est triste et drôle à la fois, là. Je le regrette pas pantoute, c'est pour ça que c'est drôle, mais c'est bizarre comme motivation, puis je vous l'ai dit en toute transparence. De tout temps, je me suis dit, moi, je vais travailler de mon talent, de ma façon d'interagir, je vais faire rire du monde, je vais entertainer des gens, c'était le talent, moi, qui était pour moi le moteur. Mais je me disais, et j'ai raison, pourquoi j'étudierais en communication? Qu'est-ce que quelqu'un qui a un bac en communication fait que moi, je fais pas? Rien. Quel humoriste doit passer par l'école de l'humour pour faire carrière? Aucun. C'est la vraie vertu de l'école de l'humour, je pense, c'est plus les contacts que ça te donne que quoi que ce soit d'autre. Je dis pas que ça vaut rien, je dis juste que tu peux t'en passer. Bon, tu peux pas te passer d'un cours de droit, tu peux pas te passer d'un cours d'ingénierie, de génie pour devenir ingénieur, puis pour des raisons tout à fait sensées, là. C'est pas juste du protectionnisme. Donc, le premier critère, c'est le talent. Le piège du talent, c'est qu'on peut s'asseoir dessus. C'est-à-dire que, je vous donne deux exemples, Anthony Cavanagh puis Jean-Marc Parent. Anthony Cavanagh rêvait et avait vraiment le talent, j'ai été son gérant pendant 5 ans, de chanter et de faire des jokes, les deux mélangés, ce que personne n'a jamais réussi à faire vraiment, et lui non plus, dans le sens qu'il a fait certains essais, mais ça a tout le temps été... Parce que c'est tout un défi, parce que quelqu'un qui va voir un chanteur va pas voir un humoriste et vice-versa. Donc, mais j'ai jamais vu, même dans l'époque où je travaillais avec Anthony, faire le vrai travail en conséquence. C'est-à-dire que c'est beau de dire « Ah, je prends des cours de chant, puis j'écris des textes de stand-up », mais il y avait un défi qui n'a pas été surmonté de mélanger tout ça. Ironiquement, qui a réussi à vivre vraiment un mix humour et musique, c'est Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent qui a même pas le talent de chanter, mais qui s'est entouré d'un band, puis qui a fait une idée de mise en scène, puis qui est devenu des shows qui remplissaient le forum. Jean-Marc Parent avec, avouons-le, un talent beaucoup plus limité que celui de Cavanagh. Gravement, Anthony, c'est à peu près... C'est un des artistes les plus talentueux au monde, puis je l'ai toujours dit, puis je le dis encore, carrément. Je sais plus aujourd'hui, parce que ça fait des années que je le suis pas, mais je veux dire, je suis convaincu qu'il a le même talent, là, on se comprend. Jean-Marc n'a pas ce talent-là, je veux dire, c'est un raconteur, mais tu sais, oublie ça, là, c'est pas un danseur, c'est pas un chanteur, ni rien. Et pourtant... C'est lui qui a attiré des 6000, des 7000 personnes. J'ai déjà été au forum pour voir des shows. Est-ce qu'il mélangeait? On dira ce qu'on veut, musique et humour. C'est que le piège du talent, c'est ça. Le piège du talent, c'est de finalement s'asseoir dessus puis pas être habitué de mettre la dose de travail qu'il faut. Moi, ça m'a piégé parce que quand j'étais jeune, quand j'avais de l'adversité dans une situation, je me sauvais pour une situation différente. Et puis, ça marchait. Ça a comme pris 33 ans pour que la vie m'envoie le signal que non, c'est pas une façon de faire, de fuir une situation inconfortable. Ça te rattrape. Mais pendant 33 ans, ça marchait. C'est-à-dire que si à droite, je disais, ah oh ben OK, fuck you, je m'en vais à gauche, ça marchait. Ça fait que mon système, il fonctionnait. Puis un jour, je pourrais vous le raconter à un moment donné, mais c'est pas le sujet ce matin, mais un jour, ça a arrêté de fonctionner. J'étais dans une situation cul-de-sac. Puis j'ai même fait quasiment une dépression, parce que là, tu sais, c'était pas un burn-out, pas en tout, j'étais en pleine forme. Mais tu sentais que dans ma tête, mon mode de fonctionnement, il venait de coincer. Alors, le talent, donc, ça se bonifie, mais ça se crée pas. Et oui, on peut le valoriser ou moins, peu importe. Moi, dans ma tête, c'est oui, puis ça l'était, puis ça l'est encore. Mais son piège, c'est effectivement de s'asseoir dessus. Et que finalement, des gens qui ont les autres, les trois autres que je vais vous parler... finissent par vous dépasser. Et à raison, parce que finalement, vous avez juste pris le talent. Le deuxième, c'est le jugement. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu peux avoir une excellente attitude, travailler fort, avoir beaucoup de talent, mais pas de jugement. Et où est-ce qu'on retrouve le plus souvent le jugement dans le monde professionnel? C'est dans l'échelle des priorités. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque de jugement va prendre un détail pour l'essentiel. Et va mettre autant d'énergie sur quelque chose qui fera jamais la différence. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là, qui fait la différence. Moi, j'ai l'impression que je réussis, bon an, mal an, avec succès et insuccès, je réussis quand même à toujours mettre mon temps où ça fait la différence. Je suis capable de voir que ça, je pourrais le faire, mais ça peut attendre, ou sans que ce soit parfait, hein. C'est pas du tout ma prétention. Mais sans que ça ait d'incidence non plus. Réel. C'est-à-dire que si on était capable de toujours mettre notre temps sur ce qui fait la différence, on en aurait du temps. C'est le meilleur résumé à quelqu'un qui me demanderait « Comment tu fais pour avoir du temps en général? » Une des réponses, c'est être capable de prioriser les priorités. T'sais. Et ça s'appelle avoir du jugement. Parce que ça fait appel à la tête. Ça fait pas appel aux émotions. Souvent, les gens qui sont dans le détail, c'est des anxieux. Les anxieux sont au détail pour diminuer leur anxiété. Ce qui fait que ils vont intervenir partout, comme ça, ils ont l'impression que tout est sous contrôle. Mais ça vient avec un coût énorme, c'est-à-dire de ne pas avoir de temps. Ça fait que, donc, voyez-vous, l'anxiété, c'est émotif. C'est, ça drive beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, si tu as du jugement, là, après ça, on peut parler de plein d'autres circonstances, mais pour les fins de mon podcast aujourd'hui, si tu as du jugement, ce que ça fait, c'est que tu as plus de temps, puis tu es plus pertinent parce que tu interviens. Puis quand je t'interviens, c'est pas juste le temps que tu passes sur tes propres dossiers, mais quand tu fais un meeting, par exemple. Moi, je me souviens, puis c'est un truc que je vous donne en même temps, quand j'ai fait la mise en scène du gala de Jean-François Mercier, c'était en 2012. Puis le premier meeting, j'étais avec Simon Cohen, puis Tap, c'est quoi non, son nom? Tap, son nom, c'est Taparnac. Julien Tap. Puis Christian Viau est là, puis Jean-François Mercier, bien entendu. Bref, c'est nous autres qui allons être le noyau de la création, c'est-à-dire les deux auteurs, le metteur en scène, Viau, qui est le boss des galas, puis l'animateur Jean-François. Puis moi, c'est des gars que je connais pas, à part Mercier, qui est un chum. Puis c'est ma première mise en scène officielle. J'en ai fait plein, mais tu sais, comme de biais. Et mon truc de départ pour la première rencontre que je fais tout le temps, que je recommande à tout le monde, c'est de faire l'inverse de ce qu'on aurait le goût de faire, c'est-à-dire d'intervenir le plus possible pour établir une crédibilité. Moi, j'ai fait exactement le contraire. J'ai absolument rien dit le premier meeting. Si j'avais un commentaire que je jugeais très pertinent, je le faisais, mais sinon, j'étais beaucoup plus taciturne que l'inverse. Beaucoup plus. Puis ce que ça a donné exactement les résultats, c'est que les gars, à un moment donné, qui manifestement devaient se demander « What the fuck, Marc Boilard? » ont vu que les quelques interventions que j'ai faites au fil du temps étaient pertinentes, parce que je sais que j'avais ma place, j'en doutais pas du tout. Et puis, c'est à la longue qu'ils ont commencé à me demander mon avis, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ferais, etc. Et là, tout à coup, ça s'est mis à... Et ça a été excellent. J'ai reçu 5 étoiles de la part de cette équipe-là. Le gala a été bon, tu sais, je veux dire, bon, mais je veux dire, c'est pas mon gala, c'est le gala de ceux qui le font, là, tu sais, je veux dire. C'est pas moi qui fait que c'est bon, que c'est pas bon, mais ça a très bien été. Puis Mercier m'a dit, malgré qu'il y avait eu des critiques dures sur Jean-François, là, ceci étant dit, pas sur le gala en général, mais voilà, Jean-François m'avait dit, je te donne 5 sur 5. Il dit, mon gars, expérience écœurante. Les gars m'avaient dit, hey, tu sais utiliser 150% des gens, c'était hot, blablabla. Bla, bla. Bon, c'est que ça tombe un peu dans le people skills, on y viendra tantôt. C'est que, tout ça pour vous dire que, au niveau du jugement, j'aurais pu vouloir m'impliquer le plus possible. Puis à quelque part, ça aurait peut-être fait que tu passes pour celui qui veut tout le temps mettre son nez partout, ce qui n'est pas particulièrement crédible. Ou au contraire, j'ai priorisé, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce qui fait la différence? Ce commentaire-là, ah, pas celui-là dont je mettais. C'est un petit truc que je vous donne aussi en même temps parce que ça marche. Donc, le deuxième critère après le talent, c'est donc le jugement. Je pense avoir fait le tour un peu de ça. Le troisième, c'est l'attitude. Alors ça, c'est celui qui est... Celui que tout le monde comprend, mais que personne n'applique. Moi, je me fais un malin plaisir d'écrire des messages sur LinkedIn. Si vous allez sur mon LinkedIn, passez par marcboilard.com, vous allez voir les icônes de mes médias sociaux en haut de la page. Puis, ou bien faites juste LinkedIn/Marc Boilard, là, tu sais, mais vous allez voir, j'ai des posts qui sont archi populaires. Il y a certains de mes posts qui sont likés, des tout petits posts de rien, là. Des quelques phrases, un petit mini paragraphe qui sont vus des 15 000 fois. Avec des presque 200 likes, des commentaires. Et ce qui pogne le plus, c'est quand je tombe dans ce type de propos-là où je parle, par exemple, est-ce que c'est le plus important, c'est le CV ou la personnalité? Si vous descendez, je crois avoir fait un podcast là-dessus aussi, c'est que descendez en bas pour voir CV ou personnalité. Là. Puis, dans le fond, ce que ça revient à dire, c'est que un des facteurs hallucinants dans une équipe, c'est l'attitude que les gens ont entre eux autres. Donc, si vous avez une bonne attitude au travail, si le monde aime ça travailler avec vous autres, je ne peux pas vous le mettre plus banal que ça, là. Si le monde aime ça être avec vous autres, vous venez de gagner des points dans votre carrière en général, mais énorme. Ça a été démontré que quand il y a des coupures de postes dans une entreprise, on en profite souvent pour se débarrasser de ceux avec qui on n'aime pas travailler. Alors, sous le couvert de coupures de postes, sous le couvert de « ah, ben t'es moins performant », mais dans la vraie vie, quand je dis, puis quand j'ai parlé, allez voir aussi le podcast « Coupure à juste pour rire » avec les sœurs Roson. Je suis désolé, mais il y a un peu de ça aussi là, qu'on peut soupçonner. Là, des gens, à tort ou à raison, qui disent « Moi, eux autres, tu n'aimes pas ça travailler avec eux autres. » Puis voilà, il y a un nouveau propriétaire, ciao, bye. Je ne suis plus là, mais ça pourrait être ça. Comprenez-vous, c'est un exemple. Là. Donc, l'attitude, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une vraie bonne attitude, l'ensemble de vos activités professionnelles vont vraiment, vraiment mieux aller parce que si les gens aiment travailler avec vous autres, ils vous aident, ils sont indulgents. Si vous faites une erreur, c'est pas grave. Ils ont le goût de vous consulter, vous devenez plus influent. C'est malade. Et ça rentre aussi dans ce qu'on appelle les people skills, c'est-à-dire les habiletés relationnelles. Moi, je prétends que 80% des problèmes en entreprise sont de nature relationnelle. 80%. quand vous réglez le relationnel, quand ça va bien avec votre équipe de travail, c'est très rare qu'il y ait d'autres problèmes qui sont plus graves. Parce que s'il y en a, on les règle. Alors là, évidemment, ça touche la corde du jugement. C'est sûr que vous pouvez avoir une bonne attitude, être Roger Bontemps, tout le monde vous trouve drôle, vous amenez des peanuts au lunch, mais vous êtes un cancre, vous êtes zéro compétent à un moment donné, comprenez-vous? Aucun des quatre éléments que je vous parle aujourd'hui peut enlever la place des trois autres. C'est un heureux mélange de tout ça. Sauf que si vous en manque un sévèrement, vous êtes en problème. Ça, je peux vous le garantir. Donc, l'attitude, j'en mets pas plus là, que le client demande, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez une bonne attitude, le meilleur critère, je trouve, c'est est-ce que les gens aiment travailler avec vous? Vous êtes capable de répondre à ça. Vous pouvez dire, ouais, le monde moyen. Ils me trouvent bien bon, bien ci, bien ça, mais OK, ils peuvent vous trouver très bon. Ils peuvent avoir rien à vous reprocher professionnellement, mais ça leur tente pas de travailler avec vous autres pour autant. C'est un vrai problème, croyez-moi. Et finalement, le travail. Alors, le travail, c'est le nombre d'heures passées, etc. Et là, c'est très drôle parce que le petit tour de magie que je voulais faire, c'est de dire, lequel de ces quatre-là vous valorisez le plus? Alors, répondez dans votre tête, là, est-ce que c'est le talent, est-ce que c'est l'attitude, le jugement ou le travail? Puis, peu importe celui que vous répondez, c'est celui que vous valorisez le plus de toute façon. Voyez-vous, il est là le tour de magie, c'est-à-dire que si vous dites, ah, oh, moi, c'est le travail, je trouve que le travail, c'est vraiment hot, etc., c'est parce que vous valorisez l'idée du travail. Ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Moi, je n'ai jamais cru que c'était le nombre d'heures qui faisait en sorte que quelqu'un réussissait ses affaires. Je ne crois pas à ça. Je veux dire, ça ne se peut pas que le concierge et le président de la compagnie soient évalués sur le nombre d'heures. Regarde ce concierge comme il travaille fort, il travaille beaucoup. Même, je vais vous dire une joke que j'ai vue sur Internet que je trouve vraiment drôle. C'est un gars qui demande à son boss, « Hey, boss, comment t'as fait pour t'acheter cette Ferrari-là? C'est hallucinant. Ce crime, ça coûte 150 000 $. C'est quoi le secret? » Puis son boss répond, « Écoute, si tu travailles fort, si tu comptes pas tes heures, si vraiment tu es tout le temps là, celui qui se donne au maximum pour sa job, ben l'an prochain, je vais m'en payer une autre. » C'est vraiment un bon gars. Parce que c'est ça, c'est comme quand je parle des perfectionnistes. Ils sont fantastiques, les perfectionnistes, pour tout le monde, sauf eux-mêmes. C'est génial d'être perfectionniste. L'univers va vous applaudir. Ben oui, vous faites le dernier 20% que les autres font pas. C'est certain que c'est génial pour tout le monde. Sauf vous autres, quand tout à coup vous êtes brûlés, vous vous rendez compte qu'en bout de ligne, ça vous a-tu enrichi réellement? Est-ce qu'en bout de ligne, dans vos poches, il vous en reste plus parce que vous êtes perfectionniste? Ben, la réponse, c'est non. Désolé, c'est non. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que vous faites dans la vie pour vous répondre que c'est non. Alors, le travail, c'est ultra surfait, cette notion-là, qu'il faut donc travailler fort, puis blablabla. Parce que quand tu réussis, c'est beaucoup plus un mélange des trois autres facteurs après, c'est-à-dire le talent que tu mets, si tu n'en as pas, puis que tu es dans une place où tu n'as pas d'affaires, ça, c'est tough. Puis le talent est plus une option, c'est si requis selon la job. Mais l'attitude, puis le jugement, bien, ça fait... C'est un énorme... Alors, ça n'empêche pas les erreurs. Je veux dire, moi, j'ai loin d'avoir une carrière impeccable. Là. C'est en zigzag, il y a des grosses années, il y a des années poches. C'est sûr que depuis à peu près 3 ans, je suis sur un mode où j'ai arrêté de vouloir toujours faire une nouvelle affaire. Là, ma table est remplie, puis il faut juste que ça continue de pousser vers en haut chacun des éléments. Mais j'ai été très irrégulier, puis je paye pour, tu sais. Je suis pas, financièrement, je suis pas rendu aussi loin que je devrais au moment où on se parle. Mais, à cause que j'ai cultivé un jardin qui est vaste, j'ai encore toutes les possibilités. Il y a rien qui est comme, oh mon Dieu, ça c'est trop tard. Ça fait que, donc, c'est mon portrait. Je dis pas que c'est mieux. Je dis juste qu'à quelque part, il a pas été basé sur, ah, j'ai mis tellement d'heures. Et ceux qui mettent tellement d'heures, je peux pas vous dire, c'est carrément parce qu'ils travaillent donc 80 heures par semaine. Puis là, je vous parle pas de faire 45 heures. C'est trop, là, ça part à part. Puis je veux même pas mettre de chiffres. Je vous dis juste que la façon que j'ai toujours observé ça, puis c'est même pas c'est pas moi perso, là. Je parle ici d'observation. Cette espèce de notion-là que c'est les heures qui font la carrière, là, entre guillemets, je l'ai rarement observé. Les gens qui travaillent très fort et qui font le reste peuvent peut-être penser que c'est le fait qu'ils travaillent très fort. Moi, je pense qu'ils pourraient travailler moins fort pour obtenir exactement le même résultat. Mais voilà. Alors, c'était mon petit propos d'aujourd'hui. Commentaire?